Bonjour à tous. Donc on va avoir une journée qui va être consacrée à la question des écritures, de la recherche, des langages de cirque, avec plusieurs tables rondes et plusieurs interventions qui viendront apporter des points de vue différents. Et on va commencer tout de suite par un premier point de vue, puisque Jean-Michel Guy va prendre la parole. Alors Jean-Michel Guy, c'est un personnage historique de Jeunes Talents Cirque Europe, Circus Next. Il a toujours accompagné, il a été un des personnes qui était au départ de, une des personnes pardon, qui était au départ de cette aventure. Il l'a toujours accompagné. Il a été plusieurs fois membre du jury et il va donc nous faire part de ses réflexions, de son point de vue pour ouvrir cette matinée. Et puis ensuite, on continuera avec plusieurs tables rondes et interventions. Donc Jean-Michel, je te laisse la parole.
Mesdames et messieurs et chers amis, bonjour. Après le récit d'anticipation de Philippe Goudard hier soir, je vais continuer dans cette voie du rêve, de l'utopie. Il faut croire en gros que c'est le privilège de l'âge, des cheveux blancs, que de pouvoir venir à une tribune et dire n'importe quoi. Je vais rêver tout haut et sans doute ne serai-je plus de ce monde pour voir mes rêves se réaliser. Donc c'est facile. Alors, plutôt qu'un bilan des 50 dernières années de cirque, ou de la politique française du cirque, ou de Circus Next, plutôt qu'une prospective stratégique qui, en fonction d'une analyse rétrospective des évolutions récentes ou antédiluviennes, et de quelques hypothèses sur le futur, dégagerait des scénarios possibles pour le cirque, je voudrais risquer ici quelques utopies. Donc, je ne vous parlerai pas de statistiques, de résultats de recherche. Je rêve. Mais pourquoi? Tout n'est-il déjà pour le mieux dans le meilleur des mondes? Les spectacles de cirque sont tous géniaux, non? Les artistes merveilleusement payés, non? Et reconnus, non? Les écoles sont formidables, enfin bref. Trêve de plaisanterie, et plutôt que de dénoncer griefs et revendications à la manière d'un syndicat, je préfère vous présenter de façon positive, optimiste et tournée vers le futur, même si je n'en connais pas l'horizon, quelques orientations possibles. Le cirque dont je rêve sera citoyen d'une imagination débridée, et puis je peux m'arrêter là. Citoyen. Je reprends les derniers mots de Philippe Goudard hier soir. Le cirque est de ce monde, le cirque n'est pas hors sol. Alors certes, la rareté mondiale des compétences circassiennes, qui ont longtemps valu aux artistes la réputation de surhomme, et les a souvent obligés d'ailleurs à un mode de vie en marge, ou à un entre-soi frisant parfois la consanguinité, à quoi j'ajoute le goût de plus en plus prononcé et évident des artistes d'aujourd'hui pour des thèmes de recherche apparemment atemporel, voire ahistorique, comme l'équilibre, la gravité, ou pour une poésie mystérieuse. Tout cela, certes, concourt ou a concouru à désigner le cirque comme un monde à part, un peu à l'écart des enjeux sociaux, économiques et politiques du temps. Or, mon cirque utopiste est très ancré dans le monde. Il est d'abord féministe, écologique, il milite pour les droits humains et en particulier pour les droits culturels. Son utilité sociale est reconnue par la puissance publique et il est soutenu financièrement par celle-ci, c'est-à-dire par l'ensemble des citoyens, au nom de principes clairement énoncés et démocratiquement débattus. Ce ne sont pas sa popularité ou sa radicalité, sa nouveauté ou sa diversité, sa contribution à la paix ou à la solidarité qui importent, mais l'énonciation même des principes d'un soutien public, quel qu'il soit, et qui peuvent être d'ailleurs nombreux et contradictoires. Pourvu, évidemment, que soit réaffirmée la liberté d'expression, ou comme l'énonce une loi française récente, la liberté de création, et donc aussi la liberté d'en faire dans un cadre privé. Comme le cirque est un art, il est évidemment difficile de séparer cet objectif de citoyenneté de ses traductions esthétiques. Mais quelle que soit l'esthétique ou la visée d'une création, celle-ci sera citoyenne à mes yeux, à la condition expresse qu'elle promeuve certains droits et qu'elle se batte au jour le jour pour les promouvoir. Le plus urgent, c'est l'égalité des femmes et des hommes, à commencer par l'égalité salariale et l'égal accès aux moyens de la création ou de la conduite de projet, et l'égale dignité, ce qui implique aussi de lutter contre les stéréotypes de genre, très tenaces, surtout et encore aujourd'hui dans les écoles de cirque, qui associent par exemple la grâce aux femmes et la force aux hommes. Je ne vais pas m'étendre sur chacun des points, mais je dis qu'il y a énormément à faire sur ce sujet et qu'il est temps de poser un diagnostic et d'avoir des débats très approfondis sur le traitement sélectif actuellement des hommes et des femmes dans toutes les instances du cirque, des écoles, des lieux de production, des lieux de diffusion, etc. Non moins urgente est la contribution du cirque à la lutte contre le réchauffement de la planète. Et nous nous félicitons tous que l'Union européenne vienne d'annoncer un plan de recherche pour la mise au point du chapiteau écologique. Je rêve. Ah ben, si on veut un chapiteau dans les années qui viennent, il faudra diminuer sérieusement son empreinte carbone, résoudre les problèmes de climatisation, de chauffage, de transport. Il est urgent qu'on s'y attelle et je ne vois pas comment on peut le faire sans mobiliser énormément de moyens et d'énergie, probablement à un niveau européen ou en tout cas au minimum à un niveau national. La question des droits culturels est plus récente et non moins importante. Son maître mot, c'est la co-construction. Une notion qui oblige à repenser de fond en comble tout l'enseignement du cirque, toute la médiation et toutes les notions qui, historiquement, en ont découlé, comme par exemple ces notions d'école du spectateur ou même d'accompagnement que nous avons forgées dans les années 90. Dans ma vision utopique, par exemple, on n'accompagne pas les artistes. À moins que ceux-ci n'accompagnent aussi ceux qui les accompagnent. Dans cette vision, une certaine conception top-down de la démocratisation n'a plus lieu d'être. La discussion collective de tous les choix, La transformation du rôle des experts et des sachants doit venir à bout de la démagogie. Voilà l'utopie qui refuse la vision d'une transmission au plus grand nombre de valeurs aristocratiques, fussent-elles celles de l'art ou de l'art pour l'art, au profit d'un débat sur les valeurs et au risque d'une désacralisation de l'artiste, et qui refuse évidemment tout autant la soumission à toute facilité. L'enjeu citoyen est là, qui modifie aussi le statut de l'art dans une société. Ne plus considérer l'art comme séparé du monde, mais comme partie prenante du monde. Il est évidemment d'autres enjeux citoyens sur lesquels je ne veux pas m'étendre, comme la lutte contre les guerres et les injustices de tous ordres. Pour être un art, le cirque ne peut ignorer ces questions. Enfin, pour être un art, la formulation est ambiguë en français, et j'assume l'équivoque. C'est pour devenir un art, et bien qu'il en soit un, que le cirque doit être un fer de lance de la citoyenneté et de la démocratie. Je ne dis pas, soyons clairs, qu'ils doivent traiter dans ses œuvres mêmes ces questions politiques d'égalité de genre, d'ambition écologique, etc. Mais que les artistes, eux, doivent être politiques, c'est-à-dire être conscients des implications politiques de leurs œuvres. Un mot maintenant des utopies, disons, artistiques. Le maître mot, pour moi, c'est surprise. Je n'ai strictement aucune idée, et je pense que nul ici n'a la moindre idée de ce que sera l'avenir. Nul ne pouvait prévoir l'irruption de la magie nouvelle, il y a encore 15 ans, et je ne sais pas, contrairement à Philippe Goudard, si les artistes de 2052 manipuleront des nano-hologrammes, et je ne veux pas le savoir. Et je ne veux pas le savoir dans mon cirque utopique. Le cirque est sans cesse surprenant. Alors, soyons clairs, le manque d'imagination est aujourd'hui flagrant en cirque. Hein, pour qui, comme moi, voit beaucoup de spectacles dans des lieux variés. Bon, je dis immédiatement le contraire pour vous rassurer et m'éviter les quolibets ou les jets de tomates. L'imagination n'a jamais été aussi débordante. Non, le problème, c'est le dosage. Pour quelques œuvres audacieuses, ou quelques programmations audacieuses, ou quelques expériences de relations au public audacieuses, ou quelques pédagogies audacieuses, ou quelques publications audacieuses, combien de ternes, d'inoffensives, de cyniques ? La question que je pose ne porte pas sur la qualité des spectacles, dont l'évaluation sera toujours à la fois subjective et sociale, mais sur l'imagination. L'imagination artistique aujourd'hui, elle reste bridée par la soumission de l'enseignement du cirque à des valeurs sportives et aussi à des valeurs bureaucratiques, enfin je passe, par le conformisme des représentations du cirque, ça vous le savez aussi, et par le marché. Alors, pour avoir un cirque surprenant et imaginatif, il faut trois conditions pour moi, de la curiosité, du dialogue, plus généralement de l'ouverture, et de la réflexion. Et peut-être faut-il ajouter aussi du courage. L'imagination est liée à la réflexion, elle est liée à la culture. Comme somme de savoir et comme agilité. Donc je pense que plus nécessaire que jamais, une forme de rattrapage intellectuel. Je sais que mes mots sont très forts, je les ai voulu ainsi. Une forme de rattrapage intellectuel par rapport aux autres arts. Ma génération a installé l'idée de reconnaissance du cirque, mais je sais très bien qu'elle est loin d'être acquise partout. Et a installé l'idée de droit commun. Hein, le cirque ne vaut pas moins que la danse ou réclame un traitement identique à celui des autres arts. Mais il faut quand même bien le dire, le cirque manque encore terriblement d'un espace de pensée. Et je trouve ce titre tout à fait juste, Think Circus. Et, je pense que c'est une urgence et qu'il faut monter la pensée à tous les niveaux. Tous les niveaux de connaissance, de curiosité artistique des artistes de cirque à l'égard de tout, hein, d'inclusion citoyenne, de recherche, bien évidemment, de critique et d'exigence envers soi-même. Je pense que ça va prendre du temps, mais que cet effort de pensée, d'écart par rapport au quotidien, par rapport à la pratique quotidienne, qui est très très pesante, comme le disait Géraldine hier soir, cet effort de critique du moindre des termes utilisés couramment dans le milieu du cirque doit être entrepris. Je viens de donner un exemple avec ce concept d'accompagnement qui, pour moi, ne va pas de soi du tout, mais je pense qu'aucun concept dans le milieu du cirque ne va plus de soi. Alors, en art, parlons plutôt esthétique maintenant, il y a toujours eu traditionnellement deux voies de renouvellement. L'ouverture à d'autres que soi, et à l'inverse, la recherche d'une spécificité de son art. La spécificité actuelle, qui ne sera pas nécessairement celle du futur, c'est le dépassement des limites corporelles. C'est ainsi que nous définissons communément aujourd'hui le cirque. Je pense qu'on peut aller bien au-delà. Les artistes de l'utopie travailleront certainement ces questions de l'ouverture à d'autres que soi et d'interrogation sur la spécificité du cirque d'une nouvelle manière. Je pense que la question du dépassement des limites est bien engagée avec certains spectacles actuels, je ne vais pas les citer, qui sont eux-mêmes hérités de formes hybrides des années 2000 ou même 90. Mais la question, ce dépassement des limites, pour l'instant, se situe encore dans le domaine du spectacle lui-même, c'est-à-dire qu'on fond plus ou moins la danse, la vidéo, le théâtre, le cirque, les marionnettes, etc. Mais elle peut aller bien au-delà, comme certaines œuvres, d'ailleurs, le montrent déjà. C'est-à-dire frotter le cirque à des choses totalement inattendues, impensables aujourd'hui, je ne sais pas, l'aéronautique, la pharmacie, la cuisine, etc. Quant à la quête de la spécificité, elle aussi, elle a donné naissance récemment à des spectacles très fondateurs, très refondateurs, avec une recherche formelle intransigeante sur les potentialités pures de l'acrobatie, du trapèze, etc. Recherche formelle, certes, hein, sur des sujets aussi importants que la gravité, le poids, mais qui, pour être formel, n'en est pas forcément formaliste, ou en tout cas, qui permet de dégager des valeurs, donc de porter sous couvert d'une recherche formelle des interrogations de type moral sur, par exemple, l'entraide ou la solidarité. Il y a un effet esthétique particulier au cirque, qui est l'effet d'admiration, qui certes ne lui est pas propre, mais qu'il cultive quand même plus que tout autre art, qui commence lui aussi à être un peu pris à revers, et je pense qu'il y a là aussi une voie d'attaque, si j'ose dire. Alors ce n'est pas un hasard si aujourd'hui la question de la dramaturgie en cirque est sur toutes les lèvres et s'est imposé comme un critère majeur d'appréciation des spectacles. C'est que la question du sens est aujourd'hui devenue vraiment majeure dans le cirque plus personne n'attend uniquement du brio ou du fascinant. Il y a une forme de consensus qui est en train de s'installer sur l'opinion, autour de l'opinion que le cirque doit générer du sens. Et plus encore, dirais-je, le sens de son propre sens. Il ne s'agit plus aujourd'hui de mettre le cirque au service d'un propos externe, je ne sais pas, illustrer Roméo et Juliette, par exemple, ni de le réduire à une hyper-spécialité, hein, un geste rarissime, mais de manifester en quoi ce qu'il exprime ne peut être exprimé que par lui. Alors, libérer l'imagination, c'est-à-dire favoriser la curiosité, l'échange, le dialogue de toute nature, l'ouverture de toute nature, mais surtout le dialogue entre tous les protagonistes du cirque et au-delà. Dialogue, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément d'accord, hein, on ne parle pas forcément du même point de vue, mais on dialogue. Donc, des producteurs dialoguent avec des artistes dialoguent avec des scientifiques, des artistes dialoguent avec des pédagogues. Et on dialogue en mettant en cause le point de vue de l'autre. Pour que ça marche, ça, pour que vraiment les conditions soient réunies d'un grand brassage et d'un grand échange, pour moi qui est la condition essentielle de la surprise, il faut absolument s'attaquer aux relations de pouvoir dans ce milieu qui sont très souvent marquées par une forme de cynisme, lequel est compréhensible dans un État comme la France où les budgets sont rares et où il y a un réel déséquilibre entre l'offre et la demande de spectacle. Donc la notion d'accompagnement qui a un côté infantilisant, pour moi, ne nous aide pas du tout à poser à nouveau frais la question de la circulation du pouvoir et de la prise de parole dans ce milieu. La recherche, ben nous allons en parler toute la matinée, c'est absolument essentiel, tout type de recherche. La recherche spéculative sur le cirque, recherche à l'aide de tous les outils possibles imaginables, croisés de la médecine à l'anthropologie, en passant par l'aéronautique, comme la recherche en art, qui est pour moi d'une urgence absolue. Philippe Goudard disait hier qu'il dirige les thèses de plusieurs étudiants, notamment au Chili, au Brésil et en Chine. Ce sont des thèses qui sont portées, conduites par des artistes, mais je ne suis pas tout à fait certain qu'il s'agisse de thèses en art. À ma connaissance, la seule université européenne qui travaille sur la recherche en art, c'est Stockholm. C'est l'université de Stockholm. Je suis personnellement extrêmement ravi de savoir que les deux artistes de cirque, Jonathan Priest et Molly Sodek, ils conduisent actuellement des études doctorales. Je pense que ça va faire évoluer considérablement notre conscience de ce que c'est qu'un trick, un truc quasiment impossible à traduire en français, le concept sur lequel travaille Jonathan. Et quant à la recherche sur le fil, qui en est vraiment à ses balbutiements, j'attends avec... comme vous, j'espère, avec grande impatience, le résultat des travaux de Molly Sodek. C'est essentiel pour que nous ayons des concepts plus précis et que nous prenions ensemble l'habitude de décortiquer les choses. La recherche et la critique vont de pair. Quand je dis que le dialogue n'est pas suffisant, tout ça, c'est une même pensée. Il faut absolument que nous prenions l'habitude désormais de couper les cheveux en quatre, d'examiner chaque mot, d'avoir le courage de ne pas admettre le sens actuel des mots et de les réinterroger. Donc la recherche pour moi est la critique et le développement de la critique. Critique écrite évidemment, critique universitaire, mais aussi critique habituelle. Je l'affirme avec force, je pense que ce milieu ne se parle pas assez, que les artistes peinent tellement, enfin, le plus souvent, à savoir quelle opinion ont d'eux les gens qui les programment ou qui ne les programment pas. C'est une course perpétuelle pour comprendre comment se forme dans ce milieu le goût, qu'il faut vraiment aussi un peu de courage pour parler beaucoup. Alors, l'imagination surprenante, ce n'est pas forcément faire un énième spectacle de cirque de 90 minutes. C'est inventer des formes, des formats, des contextes, des partenariats, des rencontres aujourd'hui improbables. En ce qui concerne le corps lui-même, ce n'est pas forcément non plus lui en découvrir de nouvelles vertus. C'est plutôt le penser comme un instrument critique, surtout en ces temps, ou en ces temps de demain, où l'augmentation du corps par 1000 prothèses et où la religion triomphante du sport risque de banaliser grandement la compétence circassienne. Je dis, c'est pas forcément faire des spectacles de 90 minutes. Bien évidemment, il y a de plus en plus de médias disponibles pour le cirque. Mais le cirque peut avoir des objectifs, je dirais, non pas. Pas uniquement artistique. Par exemple, on peut rêver que dans 30 ans, 60 ans, l'humanité tout entière sache jongler une cascade à 3 balles aussi aisément que pendant des siècles, elle a su manier un stylo plume ou aujourd'hui utiliser ses pouces sur un smartphone. Pour ne pas conclure, évidemment, je vais dire ceci, que mon cirque utopique continuera de chercher l'excellence. Mais alors, pas l'excellence in abstracto, en général, ou universelle, qui mettrait tout le monde d'accord. Plus modestement, j'aimerais que le cirque excellent soit grand, et même un peu plus grand, pour les gens et dans les contextes qui lui donnent sa grandeur. C'est-à-dire qu'il n'a pas à être divers. Il doit être divers, mais il n'a pas à être divers pour être divers, mais pour être excellent. Cela, ça a un prix énorme, qui est une forme de renoncement à l'universalité. Souvent aujourd'hui encore, le rêve d'universalité, de toucher tous les cœurs, de parler à tout le monde, à des gens qui ne parlent pas la même langue, dans des pays différents, ce rêve d'universalité cache mal une soumission à une idéologie bourgeoise élitiste ou populiste. Donc je ne crois plus à ça. Je crois que la nouvelle universalité, si elle doit advenir, viendra de l'affirmation de la diversité, d'une diversité excellente, ou plus simplement encore, d'une réaffirmation de la singularité absolue de chaque artiste et de chaque personne, pédagogue, producteur, qui est engagée dans ce milieu. Je vous remercie.